Vite. Achat en ligne, détail à hydroquebec.com.
C'est la saison F-Sport chez Boulevard Lexus. Obtenez le NX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 808 $ par mois et le RX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 878 $ par mois.
La météo présentée par Kinatex. Physiothérapie, ergothérapie en santé mentale, massothérapie, entraînement, nos services multi...
Et Pascal CV.
Le midi,
on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Ah, quelle belle journée pour faire de la radio. Il est présentement midi, une minute. Quel beau week-end en tant que température. Et aujourd'hui, c'est 21 ensoleillé. Demain, 19 généralement ensoleillé. Mercredi, 16 alternance de soleil et nuages. Ah, Pascal, c'est vrai. C'est-tu le fun quand il fait beau?
Ça revitalise quelqu'un.
C'est l'enfer.
En fin de semaine, les gens étaient beaucoup sortis. Là.
Ah oui.
Ils en profitaient. Là.
C'était fou, moi, dans le quartier chez nous. Les enfants dehors en vélo, en trottinette, les enfants qui jouent au parc, chantaient une vie.
Les terrasses semblent s'organiser aussi un peu partout dans la
vraiment.
Ville. On a, ce qui m'a fait rire, là, moi, dans la donnée que j'ai reçue, j'ai eu une grosse fin de semaine. Puis en tout cas, tout ça, pour dire qu'hier, ma soeur et moi, on s'est pogné une envie de... ouvrir l'été avec un casse-croûte. C'est ceux qui ouvrent juste l'été, là.
Oh, quelle bonne idée!
Fait qu'on s'est gâtés en fin de journée. On était comme, on va profiter de quelques rayons de soleil qui termine ce week-end-là avec une grosse patate, là. Une bonne poutine de casse-croûte.
Vous avez bien fait!
C'était tellement plein, Jeff.
C'est sûr!
Moi, j'ai travaillé longtemps là-dedans. Oh, les frites n'étaient pas blanchies. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire qu'ils ont été dans le jus, pas à peu près.
En effet.
Puis se sont fait prendre par le fait que tout le monde voulait vivre quelque chose de l'été.
Parce
je trouve ça magnifique
sinon,
et folklorique.
Les frites sont blanchies pour que ça aille plus vite. Fait que là, c'est comme, oh, on a eu un débordement.
C'est fait prendre les culottes à terre.
C'est ça, mais bon, c'est positif. Alors, oui, très belle fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez fait justement de votre fin de semaine? 418-971-101. Moi, j'ai commencé ça avec le Gong Show à la salle Albert Rousseau.
Et ça a été un succès.
Ouais. 13h, je vais vous présenter mon numéro, je vais vous le faire jouer. C'est le collègue Nathan Meyer qui a justement filmé le tout à l'aide de son téléphone parce que ça va être disponible sur YouTube dans à peu près un mois. Alors, Nathan Meyer aussi était très, très, très bon. J'ai pas pensé, moi, de filmer son numéro quand il faisait. C'était vraiment.
Là, t'étais un peu sur l'adrénaline, là. Je peux pas croire.
Oui, vraiment. Je passais 8e sur 12. Donc là, t'en as 7 qui passent avant toi. Puis là, tu regardes ça. Puis il y a un entraque après le 6e. Puis là, t'étires le temps. Tu te demandes
ça joue sur
donc
ton
comment
stress.
Ça va aller exactement. Mais ça a super bien été. J'ai été.
Juste le gars, félicitations, Jeff. Puis honnêtement, moi, tu t'es mis en danger. Puis ça, j'admire ça beaucoup chez les gens.
Merci.
Tu sais, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Plus tu le fais, plus tu es à l'aise de le faire à un moment ou à un autre. Mm-hmm. Ça reste que le stress est là. Puis je trouve que c'est un bel impact aussi, sûrement, auprès des auditeurs.
Oui.
Ça veut pas dire qu'ils vont faire des gang shows, mais
non,
de cette zone de confort-là.
Puis j'ai été sur un feeling très particulier toute la fin de semaine à dire hein? J'ai réussi à faire rire une salle Albert Rousseau.
Je pense que tu as vécu ce que beaucoup d'artistes vivent et disent à quel point que ça peut devenir une drogue, mm-hmm. puis que c'est difficile de s'en départir par après. Tu sais, les gens après sport, mettons aussi, un athlète depuis toujours, là, de se redéfinir après, ça doit être difficile.
Vendredi soir, je me suis endormi à 3 h du matin parce que j'étais encore sur un high et j'ai dit à ma blonde, sais-tu quoi, si j'ai une autre invitation, je la réessaye.
Ah, tu vois.
Parce que j'ai tellement aimé ça. Nathan Meyer m'avait dit, tu vas voir, Jeff. Le premier rire que tu vas aller chercher à la foule, c'est une tonne de pression qui va descendre de tes épaules. Puis là, tu vas commencer à t'amuser.
Tu l'entendais-tu pour vrai?
C'est exactement ça qui est en vrai. Le rire, oui, vraiment. Ça m'a motivé carrément.
OK.
Après, le premier gag que j'ai à préparer en me disant, puis là, vous allez voir tantôt à 13h quand je vais faire jouer l'extrait pour ceux qui ne l'ont pas entendu ce matin dans le pit stop, mais je me disais quand même assez dark mon premier gag. Fait que. Comment les gens vont réagir. Et là, quand j'ai entendu les gens rire, j'ai entendu Charles, un des juges, Charles Deschamps, un humoriste, rire aux êtres-là. J'ai fait « OK, c'est beau, je le guise. » Et
là,
j'ai
part.
Foncé là-dedans. Donc, je vous fais entendre ça tout à l'heure aux alentours de 13h pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais c'est ça. Puis juste pour dire la température, c'est tellement le fun. Hey, moi, on était avec les enfants à Val en fin de semaine. Gabou et Oli, ça faisait longtemps que je les avais vus, les petites pommettes rouges dans moi. Ah ouais, en vélo! On s'en va dans la cour d'école, on s'en va rejoindre des amis, jouer au soccer. OK,
ah,
on s'en va à une autre place. Hey, on fait ci, on fait ça. Ils ont passé le week-end dehors. C'était la fête à Lily, la petite fille Annick, le frère le frère à Val. Et, tu sais, les enfants, là, tu sais, le temps là, qu'on prenne un petit apéro, les adultes, tout le kit, là, ben, eux autres, au parc pendant 2 heures de temps.
C'est ça, la vie.
Ils sont venus à un moment donné, ils ont dit, les burgers, sont-tu prêts? Parce que là, on a faim en tabarouette.
Ils ont dû sentir du parc. Ça, aussi,
ben oui.
En fin de semaine, l'odeur du barbecue, ça fait-tu du bien? C'est des petits bonheurs qui nous font tellement changer d'air puis revivre. Là, hier, c'était ma première nuit avec une petite craque dans la fenêtre, là. Pendant la nuit, laisser de l'entrée de l'air de dehors, wow.
Non, très, 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 très wow. Luc La Liberté va être avec nous dans l'émission pour parler de ce qui est arrivé cette fin de semaine, ce samedi à Washington, où un homme a tiré des coups de feu à proximité du président américain. Donald Trump, Emmanuel Latraverse, évidemment, va être avec nous pour le caucus. Mais avant, Pascal, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité?
On suit la première ministre Christine Fréchette, première ministre du Québec, hein, dans sa première mission à l'étranger aujourd'hui à Washington. Donc, une série de rencontres à prévoir à 2 mois du début officiel des négociations qui concernent la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est prévu pour le 1er juillet et c'est pour ça qu'on y est. On veut rencontrer des élus démocrates, républicains, mais aussi des représentants du milieu des affaires. Ça devrait être une mission assez claire, Jeff, 24-48 heures là, pour comprendre les impacts de la guerre tarifaire puis évaluer les options pour soutenir l'économie québécoise. Elle a rencontré, avant de partir, les gens du milieu économique ici, dans la province, pour essayer de recueillir des préoccupations. Donc, il y a eu un travail terrain aussi qui a été fait avant tout cela. Mise à jour économique du gouvernement fédéral de Mark Carney avec le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Ce sera demain. Petite baisse du déficit prévu pour l'année 2026-2027. C'est ça que Radio-Canada a appris. On peut s'attendre à ce que les revenus du gouvernement fédéral soient plus élevés que les évaluations qui paraissaient là, dans le budget de novembre dernier. Donc, ça sera à suivre également à ce niveau-là. Dans un dossier un petit peu plus près de chez nous, puis je te dirais, c'est vraiment le dossier principal aujourd'hui. C'est le début de l'enquête publique sur le décès de Maëlyn Lugez. Oui. C'est une ado retrouvée morte à Lévis. On retourne au niveau de 2024, le 7 novembre. Elle avait été tristement retrouvée sans vie dans un ruisseau, dans une forêt là, située à quelques centaines de mètres de son école. Ça a pris 24 heures avant qu'on la retrouve après la demande de disparition aux policiers. Et c'était dans secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Donc, elle avait quitté l'établissement de son école sur l'heure du dîner, puis elle n'a pas été revue avant les 24 heures écoulées, là. Donc, perdre d'une enfant de 13 ans, c'est quand même pas rien. C'est difficilement concevable. Personne ne peut vraiment mesurer une telle douleur. Et c'est ce qu'a dit le coroner Luc Malouin en ouverture de l'audience aujourd'hui. Tout le monde est un peu rivé sur ce cas-là. On veut comprendre ce qui s'est passé. Puis on veut aussi trouver les problématiques dans cette recherche-là de l'enquête. Donc, les proches de Maëlyn Lugez regrettaient que le rapport de cette situation-là, là, j'ai une grande détresse psychologique là, auprès de la jeune fille, puis que ça n'a peut-être pas été pris là, en considération. C'est un coroner expérimenté, M. Malouin, Maître Malouin, qui s'en occupe. Il a piloté l'enquête publique sur la mort des petites Nora Romy Carpentier, je vous rappelle, du côté de Saint-Apollinaire en 2025. Donc, une vintaine de témoins qui seront entendus durant 5 jours d'audience, Jeff.
Oui, et avec les petites Carpentier, justement, il y avait amené plusieurs recommandations qui sont appliquées maintenant par la SQ. Donc, c'est quelqu'un de très, très, très crédible. Alors, bien hâte d'entendre ça. C'est justement une petite fille, malheureusement, qui à 13 ans avait déjà des idées noires, ouais. Là, donc des pensées suicidaires.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Emmanuel Latraverse, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un beau week-end?
Très beau.
Ah oui, il faisait beau, la vie est belle. Dans ce temps-là, on revit ici au Québec réellement, quand la belle température s'en vient. Christine Fréchette quitte cette belle température du Québec pour aller à Washington. Elle est là aujourd'hui en mission économique. Tu en penses quoi de cette allée rapide de Christine Fréchette à Washington?
Ah, je pense que c'est un très bon coup. Moi, j'étais de ceux qui avaient remarqué et qui s'inquiétaient là, de voir l'espèce de désengagement diplomatique du premier ministre Legault là, sur le front des négociations commerciales avec les États-Unis. C'est une chose de dire que c'est le gouvernement fédéral qui fait office de corps arrière là, tu sais, dans la partie de football que ça implique, mais ça ne veut pas dire que les premiers ministres des provinces doivent pour autant être absents, là, surtout quand il y a certains dossiers comme l'aluminium, le bois d'œuvre, pour ne nommer que ceux-là, où le Québec est la province la plus ciblée et la plus stratégique là-dedans. Donc, un très bon coup de sa part. faut s'entendre, là. Madame Fréchette ne va pas revenir avec des résultats concrets, là.
C'est pas le
but de l'exercice. Elle a rencontré ce matin le nouvel ambassadeur canadien, Mark Wiseman. Peut-être que ça va lui faire du bien, lui, d'avoir un petit cours de Québec 101, là,
ouais,
parce qu'il n'a pas l'air trop allumé sur la réalité québécoise. Mais je pense que le gros coup de Mme Fréchette, là, on vient de l'apprendre, c'est qu'elle va avoir obtenu une rencontre bilatérale avec Jameson Greer, qui est le représentant au commerce. Donc, on parle souvent de M. Lutnick, du secrétaire au commerce, de ses coups de gueule puis de tout ce que tu veux, mais dans le fond, la personne qui négocie, là, c'est le représentant au commerce, donc Jameson Greer. Et donc, Mme Fréchette a pu avoir une rencontre avec lui. Puis ça, je pense que c'est important dans le sens que ça lui permet à elle d'exposer la cause du Québec, là, des enjeux des entreprises québécoises, etc. Mais ça permet aussi, je pense, pour elle, comme première ministre, d'avoir une rencontre bilatérale avec un des plus importants des décideurs dans ce dossier-là. Ça lui permet, elle, de se faire une meilleure tête sur quels sont les enjeux, de ne pas être toujours dépendante des comptes rendus par personne interposée, soit qui viennent du fédéral ou qui viennent de nos délégués commerciaux au sud des États-Unis. Donc, je pense que ça c'est vraiment un bon coup. C'est constructif. Ça montre aussi la force de la diplomatie québécoise d'être capable de travailler avec le Canada pour obtenir ce genre de rencontre de très, très, très haut niveau.
Ouais, t'es pour reprendre ton analogie de tout à l'heure, c'est pas parce que t'es pas carrière que t'as pas le droit de porter le ballon au football. T'sais, ça existe, un porteur
Mais
de ballon.
Regarde, M. Carney a une approche, Team Canada, on dit beaucoup, il y a la première rencontre aujourd'hui de son comité consultatif là, dont on parlait la semaine dernière avec lequel il y a des représentants des grandes centrales syndicales, de différentes associations manufacturières du monde des affaires, mais ça ne veut pas dire que les premiers ministres des provinces n'ont pas un rôle à jouer. Le danger, c'est quand ils rament à contre-courant, là, t'sais, un peu comme ce qu'a fait de faire cavalier seul, comme avait fait M. Ford l'an dernier avec sa campagne de pub qui a fini plus au bout et qui a amené à une rupture des négociations. Si le Québec est capable de tirer son épingle du jeu en ramant dans la même direction que tout le monde, ben oui, c'est sûr que c'est très utile. Puis moi, je soupçonne que c'est pas le dernier voyage à l'étranger que va entreprendre Madame Fréchette, qui est très à l'aise, là, justement, dans ce domaine-là là, et dans ce genre de contexte-là.
Vraiment, à cet effet-là, on écoute Joël Lightbound sur nos ondes vendredi dernier parler de cette mission de Christine Fréchette.
On est tous dans la même équipe, puis je sais que Mme Fréchette est en communication constante aussi avec tant le premier ministre et son équipe, mais Dominique Leblanc aussi qui est en charge du dossier. Ouais.
Elle est vraiment en train de bien se positionner sur l'échiquier politique parce que là, rencontre importante aujourd'hui à Washington, elle est très bien vue de la part de Mark Carney comme étant justement quelqu'un qui va jouer en équipe. Alors, elle marque des points très rapidement. Ce qu'elle se devait de faire, elle le réalise à l'heure actuelle.
Ouais, très clairement. Je pense que, tu sais, on a reproché un peu la semaine dernière lors de son remaniement ministériel qu'il n'y avait pas une rupture claire avec l'ère Legault, etc. Je pense que la rupture, c'est elle, c'est son style de leadership. Mm-hmm. Premièrement, une prise de pouvoir très minutieusement et efficacement orchestrée. Donc, elle n'est pas arrivée là à s'embarrer dans une pièce, à regarder ses dossiers pendant 3 semaines, à se demander ce qu'elle allait faire. C'est une première ministre qui sait où il s'en va, qui est très clairement consciente qu'elle a très peu de temps pour essayer d'inverser la tendance et de montrer qu'une CAQ 2.0 peut apporter quelque chose à l'espace public et qu'une CAQ 2.0 est possible, que ce n'est pas strictement le prolongement de l'ère Legault, là. Et ça, jusqu'ici, elle le réussit, je pense, très, très bien.
Au niveau canadien, Emmanuel, aujourd'hui, annonce d'un fonds souverain canadien de la part de François-Philippe Champagne. On l'écoute au HEC Montréal tout à l'heure en conférence de presse.
Une annonce historique. Effectivement, le Canada lance son propre fonds d'investissement souverain. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est de permettre aux Canadiens et Canadiennes à travers le pays de pouvoir contribuer, mais aussi de profiter de cette création de richesses collectives. Dans le fond, on se donne des outils de plus dans notre coffre à outils pour bâtir le développement économique.
Bon, Emmanuel, pardonne-moi mon ignorance, mais c'est quoi un front d'investissement souverain canadien? Moi, si je décide de prendre mes petites économies de 1 000 $ puis pitcher ça là-dedans, je vais-tu faire de l'argent? Comment ça marche, là?
La promesse, éventuellement, c'est que oui. Écoute, l'exemple le plus simple d'un fonds souverain, là, pour que les gens nous suivent, là, c'est prendre la Norvège, mm-hmm. qui a pris les revenus du pétrole
okay.
dans un fonds qu'on investit. Et on sert de ces revenus-là pour financer la transition énergétique en Norvège.
D'accord.
Qui a permis justement à la Norvège, qui est un pays pétrolier gazier, d'être un des leaders mondiaux en termes d'électrification des transports, etc. Donc, ce qu'on en comprend, parce qu'il lance les consultations pour le mettre sur pied,
okay.
mais c'est que le gouvernement Carney mettra à peu près 25 milliards de dollars dans ce fonds-là, dans lequel aussi les Canadiens pourraient investir et que ce fonds, ensuite, investirait à son tour dans certains des grands projets nationaux, que ce soit, on parle toujours du port à contre-cœur, là,
oh,
mais
oui.
La mine de graphite, le port de Churchill, etc., et que ça rapporterait des dividendes.
D'accord.
Puis là, à un moment donné, ben, tu as une roue là, où tu réinvestis, tu refais de l'argent, ça. Etc. Sur papier, ça a l'air d'être une bonne idée, mais il y a des mais qui viennent avec ça. Rappelle-toi, en 2017, Bill Morneau, ministre des Finances à l'époque, avait lancé la Banque d'infrastructure
oui,
du Canada.
Oui, je me souviens très bien de ça.
Puis on avait dit, cette banque-là va permettre de prêter de l'argent puis de monter, aider à faire les montages financiers de grands projets d'infrastructures qui sont très difficiles à financer au Canada. Ça prend à peu près 7 ans avant que cette banque-là décolle puis qu'elle se trouve où elle s'en allait, qu'est-ce qui arrivait, comment on allait gérer ça. Ça a vraiment été comme un début totalement désastreux, ce qui fait que 8 ans plus tard, elle commence effectivement à porter fruit. Donc, est-ce que la même chose va arriver avec ce fonds souverain? On pose la question. Puis deuxièmement, est-ce que le fonds souverain va devenir une patente politique? Le fonds souverain, ça marche s'il est vraiment indépendant du gouvernement, s'il est vraiment comme une société de la couronne et qu'il est vraiment géré par un comité d'investissement aviseur, c'est avec des PDG de banque, là, des vrais bosses là, de la finance, qui investissent là où c'est rentable et payant. Pas là où le gouvernement voudrait qu'on dépense l'argent.
Je comprends très bien. Puis là, si
donc,
on
le fonds d'investissement du régime de pension du Canada, par exemple, investit de manière très indépendante. Teachers, là, le fameux gros fonds de pension des enseignants de l'Ontario, est géré de manière indépendante. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Est-ce que ça va... On verra. Mais il y a donc c'est une idée pour l'instant qui peut être porteuse, mais qui contient son lot d'écueils.
Ouais, puis par expérience ou par historique, un gouvernement libéral canadien a plus tendance à centraliser le pouvoir et à prendre les décisions qu'à le laisser indépendant.
Ben, je te dirais qu'avec tant qu'on a quelqu'un comme M. Carney qui est aux commandes de l'État, que son ministre des Finances, c'est François-Philippe Champagne, que c'est Tim Hodgson qui est en charge des ressources naturelles, c'est leur bébé. C'est pas à court terme, mais est-ce que des gouvernements futurs vont vouloir instrumentaliser cette banque-là, ce fonds-là, justement pour financer des bébelles, puis des projets, puis des lions électriques, puis des affaires de même? Je pense que c'est un peu là qu'il y a une inquiétude. Puis, le fond du problème, je parlais à quelqu'un que je connais bien qui travaille justement dans un des grands fonds de pension là, canadiens. Puis, il me disait, Emmanuel, le problème, c'est pas qu'il manque d'argent au Canada. Là. C'est pas qu'il manque d'argent pour investir. Le problème, c'est qu'il manque de projets.
Ouais.
Parce qu'on est encore dans la logique où c'est tellement lourd mettre sur pied ces grands, grands projets-là que c'est ça qui est difficile. Donc, le gouvernement dit que d'ici un an, on va voir les fruits de sa stratégie des grands projets, là. qu'il y en a où la pépine va être dans le sol, etc. Mais disons qu'on est encore en train de bâtir l'architecture de quelque chose qui un jour pourrait porter fruit, mais on en est, tu sais, c'est pas demain matin que ça va vraiment faire une différence.
En effet. On termine le caucus avec Emmanuel Latraverse, segment du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101, l'émission en jazz, avec Alexandre Boulris, qui a été officiellement accueilli dans la famille de Québec solidaire. Et tiens, Emmanuel, il va nous expliquer que même s'il provient du NPD, il est souverainiste.
Revenir à la maison, revenir à Québec solidaire, c'est aussi revenir au pays, au Québec. J'aime beaucoup les pays tout autour. Il y a plein de gens qui œuvrent inlassablement pour les droits de la personne, la justice sociale et le bien commun. Mais mon appartenance profonde et inébranlable, c'est ici, chez nous. Et j'arrive dans ce nouvel épisode avec une conviction profonde. Il n'y a pas de projet de pays sans projet de société. Et ce n'est pas un projet de société que de stigmatiser, discriminer, diviser ou blâmer.
Bon, on comprend très bien pourquoi il n'est pas allé au PQ avec la fin de cet extrait-là, parce que le PQ est critiqué beaucoup par Québec solidaire de stigmatiser et diviser. Mais savais-tu ça, toi, qui étais souverainiste?
Bien, tu sais, il est un des membres fondateurs de Québec solidaire, là, tu sais, alors, puis c'est assez drôle parce que quand il est allé au NPD, on l'accusait d'être un crypto-souverainiste. Alors là, on l'accuse d'être un crypto. Moi, je vais dire, je ne me formalise pas tant que ça, de cette réalité-là. Au moment où Alexandre Boulris a été recruté, dans les faits, par Thomas Mulcair pour venir au fédéral, au NPD, c'était pas une époque d'effervescence souverainiste, là.
En effet.
Donc, il y a quand même des moments dans la vie ou dans ta perspective comme politicien ou comme aspirant politicien, tu peux dire, c'est quoi, moi, ma priorité en ce moment, tu sais?
Oui, puis ils peuvent en avoir qui visent le pouvoir, tu sais, parce que là, il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, le NPD visait le pouvoir. Ouais, mais à l'époque de Jack Layton, on a vraiment passé proche, là.
L'époque de Jack Layton, on a passé proche, puis de dire, moi, je vais aller à Ottawa militer, travailler, pousser pour des politiques progressistes, des réinvestissements dans le filet social canadien, ça se défend, tout comme ça se défend de dire, bien là, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai fait le tour du jardin, le NPD, ça s'en va nulle part, puis Québec solidaire a besoin de moi dans Gouin, et donc je rentre à la maison. Donc moi, je me formalise pas tant que ça, je te dirais, de ce slalom dans les priorités idéologiques, là. Je pense que c'est aussi le reflet de la réalité de bien des Québécois, dans les faits, face à la question nationale.
Oui, mais on va se le dire, c'est une grosse prise pour Québec solidaire, là. T'sais, j'ai écouté son point de presse ce matin.
Juste le ton, hein?
Ah, le ton, la prestance. Je vais juste vous faire entendre également sa différence entre la gauche et la droite.
Et j'ai appris dernièrement les mots de Françoise Sagan, qui m'inspirent aussi et qui sont extrêmement clairs. Pour la droite, les inégalités, c'est inévitable. Pour la gauche, les inégalités, c'est inacceptable.
Il a le ton d'un chef de parti.
Non, il est très bon, il a beaucoup d'autorité. Il est très, tu sais, il a quand même 15 ans de vie politique sous
Exactement.
La ceinture. Il a été chef adjoint du NPD, etc. Donc, c'est sûr que c'est une grosse prise. Puis, c'est une grosse prise aussi parce que, tu sais, il a été élu parce qu'il est Alexandre Boulris, là. Tu sais, pas...
Ouais.
Il est issu, tu sais... C'est pas monochrome, le NPD. Il y a des néo-démocrates plus pragmatiques, là. Lui, c'est un progressiste, mais pragmatique, là.
Mm-hmm.
Et je pense que Québec solidaire a besoin, dans le contexte de la campagne électorale qui s'en vient, d'avoir des têtes d'affiche qui incarnent cette gauche plus pragmatique, là. Parce que c'est tout le problème de QS en ce moment, tu sais. C'est la fracture qu'il y a entre le caucus et le parti, mais c'est le fait que même leurs super bonnes idées peinent à percer l'espace public, tu sais. C'est eux, la semaine dernière, qui mettaient de l'avant l'idée selon laquelle il faut mettre un terme aux offres aveugles, là, sur l'achat de maisons.
Oui.
Là. c'est que tu sais que quelqu'un va déposer une offre, tu ne sais pas c'est quoi le montant, puis donc tu as une surenchère à l'aveugle là, qui est un contributeur majeur, là, je dirais, de l'escalade et de la surchauffe immobilière.
Je l'ai vécu l'an passé en essayant de m'acheter une maison. C'était très difficile de savoir. Ben, ouais, coudonc, y a-tu quelqu'un qui va faire une plus grosse offre? Il y a des maisons évaluées à 300 000 qui partaient à 525 000.
Ben, c'est ça. Alors, tu sais, c'est une super bonne idée. Ça fait débat, etc. Mais c'est difficile, je pense, pour PS, pour QS en ce moment, de franchir la barre de la discussion publique là, t'sais, au-delà des couloirs du Parlement. Puis je pense qu'un joueur comme Alexandre Boulris peut les aider à faire ça.
Très convaincu. Pour les auditeurs de Boulevard 101, Alexandre Boulris sera en entrevue demain matin, 8h45, dans Marceau le matin. Emmanuel, toujours un plaisir. On se reparle demain.
Très bien, au revoir.
Salut, Emmanuel Latraverse dans le caucus avec nous du lundi au jeudi. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on vous tient au courant de l'actualité avec un bloc nouvelle. Et Luc Laliberté va être avec nous pour parler de cet attentat envers l'administration Trump lors justement du dîner des journalistes dans un hôtel, hôtel Hilton à Washington. On va finir là, Pascal Sévan, en parlant du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. 2-2 maintenant dans la série. Le Lightning est revenu de l'arrière. Perdait 2-0 hier, l'a emporté 3-2. On a une série exceptionnelle présentement. Entre les deux équipes, c'est Alex Laramé qui sera avec nous. Exactement, midi 32 minutes sur Boulevard 101. Vous êtes à l'émission On en jase. Pour nous joindre, 418-971-1021. BLVD.fm pour nous écouter également via notre web radio. Et on met les meilleurs moments de l'émission immédiatement après l'émission que vous pouvez réécouter en tout temps. Pour notre émission, comme pour les autres émissions de la grille horaire, Boulevard 101, c'est l'application App Store, Google Play Store. Téléchargez-les, elle est gratuite. Avec les haut-parleurs intelligents, vous n'avez qu'à dire écoutez BLVD 101 et on apparaît dans vos oreilles. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que plein de contenus exclusifs s'y retrouvent, notamment les podcasts Grands Événements. Et ce soir, podcast Grands Événements, Pascal CV, on revient sur le départ des Nordiques. Oh, que j'ai le cœur brisé quand on parle de ça. J'avais participé à la marche, j'avais loafé de l'école secondaire pour aller marcher pour sauver nos Nordiques. Mais ils nous ont quittés il y a de cela 30 ans. C'est le journaliste Stéphane Cadorette, à l'époque c'était son père Claude, qui était sur le beat, comme on dit, des Nordiques, alors qu'il s'entretient avec Denis Gravel. Ça va être une discussion très, très, très intéressante, surtout dans la foulée des séries de la Ligue nationale de hockey. Manquez pas ça, c'est à 19h ce soir sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça se retrouve sur notre page YouTube dès le lendemain. Et le podcast des grands événements est une présentation de Climatisation Paquette. Climatisation Paquette, c'est les meilleures marques pour vous de thermopompes, notamment les produits Move Air. Allez sur climatisationpaquette.com pour en savoir plus. C'est un service à l'intérieur de 24 heures qu'on vous offre. En attendant, Luc Laliberté, Pascal CV, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Eh bien, Christine Fréchette est à Washington pour une mission économique assez claire. La première ministre qui va rencontrer en 24-48 heures des acteurs politiques économique pour défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada, États-Unis et Mexique. Début de l'enquête publique sur le décès de Maëlyn Lugès aujourd'hui au Palais de justice de Québec. C'est une vingtaine de témoins qui seront entendus pendant 5 journées, dont les parents de l'ado retrouvé décédé dans un ruisseau près de son école à Saint-Jean-Chrysostome le 7 novembre 2024. Premier rapport du coroner qui avait été publié et qui concluait un décès accidentel par noyade, possiblement attribuable à un malaise. Mark Carney annonçait ce matin la création d'un fonds pour un Canada fort, le premier fonds souverain du pays. Le premier ministre canadien invite ses concitoyens à investir leur argent dans les grands projets nationaux pour faire du pays une superpuissance énergétique et diversifier aussi sur les marchés d'exportation. Deux détenus ont été violemment agressés à l'arme blanche au pénitencier de Donnacona vers 11h30 hier matin. On craint pour la vie de l'un d'eux. Les victimes ont été transportées à l'hôpital pour y soigner des blessures importantes. Il y a une enquête qui a été ouverte. Les enquêteurs des crimes majeurs ont été dépêchés longtemps sur place. C'est un événement qui s'ajoute à une bonne liste quand même jusqu'à maintenant.
Ah, vraiment, c'est complètement fou ce qui se passe dans nos prisons et nos pénitenciers. J'ai l'impression qu'à chaque 2 semaines, il y a des événements extrêmement violents qui se passent à Donnacona. Et là, c'est de plus en plus questionnant pour nos gardiens de prison, nos agents correctionnels. Vraiment, il faut faire quelque chose. C'est la guerre des gangs, évidemment, qui amène ça. Mais là, on a bien beau être séparés dans des ailes différentes. Ça continue quand même à se pogner et à brasser pas à peu près.
Bien, écoute, moi, je te l'ai dit, j'ai eu une conversation privée et anonyme avec un gardien de prison qui est toujours là, en emploi. Puis c'est pour ça que c'est privé et anonyme.
Ben
ils
n'ont
pas la possibilité de parler.
Exactement.
Ils ont peur de bien des choses. Puis dans les informations que j'ai recueillies, entre autres, c'est comme le droit à la personne qui est trop important.
Ouais.
Notamment, c'est pour ça qu'on n'a pas encore des filets pour intercepter les drones comme il se doit, les barreaux aux fenêtres et tout ça. Parce que, entre autres, les filets enlèveraient de la lumière sur la cour des détenus. S'entends-tu que...
Ben non, c'est ça. Et là, ben les détenus sont armés au coton. L'événement qui s'est produit, là, de ça à peu près 3 semaines, quand il y a un individu qui est décédé, justement. Moi aussi, je connais des gens qui travaillent là-bas à Donnacona, puis ils me disaient, écoute, on n'aurait jamais pensé ça de ce gars-là. Mais il a été attaqué, puis ben lui aussi, il avait son arme artisanale, puis il s'est défendu, puis il en a tué un. Mais
reçu par drone.
Exactement. T'sais. Une personne qui est au pénitencier, mais pas pour des crimes violents. Donc, tu sais, les agents correctionnels disent, OK, lui, tu sais, jamais il va s'en prendre à quelqu'un. Il s'en est pas pris à personne, il s'est juste défendu. Mais il s'est défendu avec l'effet qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Là. Donc, tout le monde est à risque de créer, je devrais dire, de la violence, justement, cause du climat qu'il y a.
C'est ça. Puis, tu sais, on avait parlé d'un détenu qui était complètement désorganisé, qui s'en était pris à des agents. Puis, je t'avais posé la question à me dire, hey, attends un peu, mais tu une chose qu'on peut retenir de ça quand même, sans lui donner aucun crédit, mais juste à dire, si lui, il dit que c'est le chaos total puis qu'on se désorganise en prison, il y a peut-être un petit élément à aller chercher là du fait que s'il vire paranoïaque dans l'encadrement qu'on donne à ces détenus-là, est-ce qu'il manque pas un peu de pouvoir aux gardiens de prison? Ça n'a pas été perdu au point où on est en train de tout le temps être sur le qui-vive puis peut-être devenir des criminels encore plus endurcis à l'intérieur.
Ils peuvent plus les envoyer au trou. Donne plus de conséquences, ben la violence va juste augmenter.
Plus de 25 000 $ d'amende qui ont été remises par le SPVQ en seulement une semaine à des automobilistes qui n'ont pas respecté le nouveau sens unique près du Grand Théâtre. On en a profité pour être très proactif. Hey,
ça me sidère qu'on donne autant de contraventions. T'sais, il me semble que c'est une nouvelle signalisation. D'un, il faut se poser la question, la signalisation, est-ce qu'elle est déficiente à voir le nombre de contraventions?
Un petit temps d'adaptation, t'aurais demandé.
C'est ça, un petit avertissement, une petite sensibilisation. Là, je trouve ça tôt.
C'est une demande d'accès à l'information qui a permis au Journal de Québec de savoir que c'est 137 amendes pour un total de 25 619 $ qui ont été remises en quelques jours. C'est énorme. Et c'est des données qui s'arrêtent au 20 mars. Alors, combien par après? Mais on indique que c'est une tendance qui s'est maintenue dans les journées suivantes. C'est quand même important. Je vous rappelle, le sens unique, ça, c'est en vigueur depuis le 16 mars. C'est sur la rue Jacques-Parizeau, entre les rues Clairefontaine et Turnbull. C'est près du Grand Théâtre. Parlant d'argent, il y a près d'un Québécois sur deux qui seraient pour le retour de péage sur certaines routes de la province. Si jamais ça pouvait nous permettre de financer des infrastructures routières un peu plus conséquentes pour nos voitures, tiens. Et c'est le sondage Léger qui a été cité ce matin par le Journal de Québec qui nous donne cette proportion de 48 % qui se dit en faveur contre 46 contre et 7 % qui ne sait pas.
Je sais pas pour toi, Pascal, mais moi, je suis pour des meilleurs investissements de la part du gouvernement avec mon argent, puis je suis pour aussi que les entrepreneurs fassent un travail plus durable. Avant de payer.
Oui, peut-être.
Additionnel.
Tu penses qu'on pourrait aller voir en amont, mais en même temps, c'est une histoire de finance. Peut-être utilisateur PR. C'est tout le temps complexe. Pour l'éponge, j'ai une autre opinion. Mais bon.
Non, exactement.
Et oui, je termine sur cette nouvelle qu'on s'en va aborder avec notre prochaine invitée. C'était le dîner des correspondants. On réunissait samedi soir des journalistes, des politiciens, des célébrités à l'hôtel Hilton de Washington. Et ça a été interrompu par des coups de feu. Il y a des images qui sont balancées partout sur les réseaux sociaux. On voit Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, notamment, qui ont été pris là, par les épaules. Ah oui, on les sort d'urgence. Et Trump et ses membres ont été ciblés par un suspect. On l'a arrêté. Le tireur serait Cole Thomas Allen, Californien, 31 ans. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup réagir.
Pour en parler, on va justement rejoindre Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également producteur et concepteur des capsules sur les médias sociaux La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu?
Je vais bien. Écoute, un petit rhume de saison. Je m'excuse pour la
voix. Ça arrive,
mais on a un début de printemps, donc ça vient avec. J'en profite.
Exactement. Luc, on va parler prochainement avec Alex Laramé de la série canadienne T'aimes pas bien, mais je sais que tu es un grand fan de sport. Tu penses quoi de cette série-là jusqu'à présent?
Ah, misère, que c'est dur pour nos nerfs. Donc, hier, j'étais bien excité parce que pour la première fois, on était à 2-0. Donc, aucune des deux équipes n'avait eu une avance de 2 buts.
En effet.
Mais on a bien vu à quel point ça se joue hein, sur pas grand-chose, finalement. Un avantage numérique, une mauvaise pénalité. Et j'ai hâte de voir si, pour le prochain match, Cole Caulfield a, entre guillemets, débloqué hier, donc son premier but. Mais j'ai hâte de voir si Slavkovski va se remettre, finalement, de ce coup-là qui, selon moi, a changé le match hier.
Je m'excuse de vous interrompre, les gars. On est toujours dans cette intervention au centre de détention de Québec, une partie du centre de détention qui est confinée. Réception d'informations, il voudrait qu'une arme à feu artisanale se soit frayée un chemin à l'intérieur des murs de prison. On est en lockdown depuis 8h30. Les informations commencent à sortir dans les dernières minutes. On veut permettre aux autorités de fouiller les détenus de façon sécuritaire. Des secteurs, comme je vous dis, qui sont confinés. Parmi ceux-ci, il y a les détenus des North Savage Gang. C'est des anciens représentants du Blood Family Mafia, hein, ceux de Pic-sur-Mel, qui se sont rassemblés dans un autre gang et qui essaient de faire leur loi. C'est des sanguinaires, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de limite. Puis on dénombre quelques dizaines de détenus dans les ailes ciblées là, par l'opération. Donc, c'est l'information que j'ai pour l'instant.
Merci beaucoup, Pascal. C'est vrai, quand on dit justement que protéger nos prisons, c'est difficile. On parle peut-être d'une arme à feu à l'intérieur des murs. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça fait le pont, tiens, Luc, arme à feu.
Oui, voilà.
Attentat samedi soir dans un hôtel Hilton de Washington où la communauté journalistique était réunie. Premièrement, est-ce que tu penses que là, on va renforcer les mesures de sécurité? Parce que je trouve ça particulier quand même qu'on tienne ça dans un hôtel, mais qu'on n'ait pas fouillé les chambres ou quoi que ce soit avant.
Ben écoute, moi, c'est la première question. C'est arrivé soudainement là, pendant la soirée. Ma première question, ma première interrogation, c'était, écoute, c'est la troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump. Il y en a eu une, on le sait, en Pennsylvanie. Et encore là, c'est une faille de sécurité. L'individu qui était sur le toit, normalement, n'aurait pas dû se retrouver là. Ça aurait dû être inspecté à l'avance. La deuxième fois, ben, on a frappé plus tôt. Donc, on l'a arrêté, mais il était en embuscade le long du terrain de golf. Et là, dans un hôtel, alors que tu as non seulement le président, mais toute la chaîne de succession du président, ça ne peut pas être plus gros comme événement en termes de pouvoir ou de gestion du pouvoir aux États-Unis. Et je me suis étonné tout de suite, comment se fait-il que cette personne-là se soit retrouvée finalement à un poste de vérification et une porte de pouvoir faire des dégâts épouvantables. Et l'autre chose qui m'a étonné, et ça je ne le savais pas quand ça s'est produit, c'est que dès le lendemain, et c'est confirmé ce matin, on nous a annoncé que contrairement à ce qu'il y a par exemple pour le discours sur l'État de l'Union qui se fait au Congrès, où là, on a hein, les gens de la Chambre, du Sénat, président, vice-président. Contrairement à ce genre de soirée-là, on n'était pas au maximum de la sécurité qu'on peut offrir donc aux hommes, aux femmes, aux décideurs, au plan politique. Et ça a été une autre de mes grandes interrogations, mais après coup, comment se fait-il qu'on n'ait pas mis ça au maximum alors que tout le monde est là? Il y avait de la sécurité, n'entre pas qui veut, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Je répète, on était à une porte d'ouvrir le feu sur des gens de l'administration, des secrétaires ou conseillers, l'équivalent des ministres, le président et le vice-président. Donc, c'est énorme.
Non, exactement. Puis Luc, corrige-moi si je me trompe, mais déjà que le Congrès est quand même bien sécurisé, puis c'est pas facile d'accès. C'est beaucoup plus facile d'accès dans un hôtel au centre-ville de Washington qu'au Congrès. Donc, on devrait être vraiment à sécurité maximum dans un endroit public de ce type-là?
Tout à fait, tout à fait. Et normalement, ça l'est. Donc, on a les informations, même si on ajoute d'heure en heure un peu plus d'informations, ça demeure pour l'ensemble d'une opération qui est aussi grosse que celle-là, ça demeure fragmentaire. Donc, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de voir, entre autres, là, ce sont des failles de sécurité à répétition. Et il ne faut pas s'y méprendre, hein, ou il ne faut pas se faire prendre au jeu. Là. Un hôtel comme le Hilton, là, c'est des jours à l'avance qu'on fait du repérage normalement et qu'on installe les différents paliers de sécurité jusqu'à l'entourage immédiat du président. Quand un président américain passe quelque part, si vous avez des amis qui vivent à New York, par exemple, quand le président américain débarque, là, on voit arriver les services de renseignement longtemps à l'avance et on bloque tout autour. Donc, ça rend la chose d'autant plus étonnante.
Juste, nous, quand on reçoit un premier ministre, là, c'est voilà. Les chiens pisteurs, c'est les gardes de sécurité la veille.
Ils viennent des jours à l'avance voir les sorties de secours sont hautes. Tout ça, t'as entièrement raison.
Des gardes du corps partout. Puis ils n'ont pas matière à rire avec nous, même si on a envie de faire des blagues. Fait que, tu sais, c'est particulier et il faut accorder un peu plus de temps à ça, je pense, dans notre conversation avec toi, parce que ça alimente les complots.
Tout à fait. Écoute, ça a été... j'ai été étonné parce que souvent, quand je regarde sur les réseaux sociaux, ceux qui suivent mes activités, puis je suis content, ils sont somme toute assez modérés. Et c'était presque unanime. Les gens n'y croyaient pas. Ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, j'écoute comme eux une foule de questions. Je viens d'en évoquer deux avec vous autres. Là. Comment se fait-il qu'on n'était pas au maximum de sécurité? Et comment se fait-il qu'un individu soit arrivé aussi près?
C'est la même question pour l'ancien tireur là, dont on parlait quand il y a eu la première tentative de meurtre pour Donald Trump. Là.
Tout à fait. Mais ça montre à quel point les gens maintenant, à la fois face à Donald Trump, mais face à la classe politique ou aux autorités en général, à quel point il y a une crise de confiance qui est majeure. Donald Trump lui-même a joué sur cette crise de confiance. Ce n'est pas la première fois, même si Donald Trump le fait à une échelle qui est du jamais vu dans toute l'histoire américaine, ce n'est pas la première fois que les dirigeants américains cachent de l'information, déforment de l'information ou ne partagent pas toute l'information qu'ils ont sur des événements, des guerres, des attentats, etc. Et Donald Trump, qui lui avait été élu en disant « Écoutez, ces gens-là vous mentent, mais votez pour moi, puis je vais vous débarrasser de cette espèce de clique ou d'état profond qui dirige tout. » Donald Trump ment plus en moyenne que ses prédécesseurs. Ce qui fait qu'on se retrouve devant une situation maintenant où on a quelque chose de grave. Quand on parle de complot, en passant, pour ceux qui nous écoutent, là, je n'ai pas toutes les réponses, c'est clair. Mais ça veut dire que les services de sécurité seraient dans le coup aussi. Ce n'est pas que le vice-président ou le président ou son administration. On parle de tout ce qui est responsable de la sécurité qui serait partie prenante d'un complot. Ce serait énorme. Mais pourtant, en termes de perception, on a beaucoup de gens qui disent « Non, là, c'est la troisième fois, ça ne va pas bien pour le président dans les sondages, il ne voulait plus parler d'Epstein, il ne voulait plus parler de l'Iran, il voulait vendre sa salle de bal comme étant sécuritaire. » D'ailleurs, les Républicains disent maintenant « Oui, OK, on est prêt à soutenir le projet de salle de bal du président ». Et Donald Trump lui-même, le soir, la nuit, finalement, suivant l'arrestation du tireur, le président qui a dit « Moi, je pense qu'on devrait faire ça dans ma salle de bal, ça fait longtemps qu'on en a besoin et elle va être sécuritaire ». Mais tout ça ensemble, ça nous donne un chaos assez extraordinaire qui fait que, peu importe les arguments que je pourrais sortir, les gens sont souvent, pas tous, convaincus que ce n'est pas vrai, cette attente-là. Et pourtant, de la violence face aux politiciens aux États-Unis, elle est en pleine montée dans les dernières années. Donc, il n'y a pas eu que Donald Trump. Il y a le mari de Nancy Pelosi qui a été battu presque à mort. Il y a un politicien et sa conjointe au Minnesota qui ont été abattus dans leur domicile. Hier, sur place, il y avait des politiciens, dont un républicain, Steve Kelly, sur lequel on avait tiré alors qu'il participait à un match de baseball amical entre les représentants de la Chambre des représentants. Donc, il y a une violence qui est à la hausse et moi, je suis très inquiet, un, de cette hausse de violence, on va convenir du fait que c'est tout sauf sain, et deux, qu'on a tendance finalement à nier que ça puisse se produire et ça ouvre la porte à d'autres répétitions ou encore, pourquoi pas, aux autorités de recourir à des mesures encore plus fortes, voire peut-être abusives, en jouant avec des éléments de sécurité.
Non, en effet, tu as entièrement raison. Luc, hey, tu parlais de chaos tout à l'heure, justement, c'est encore le chaos en Iran. On apprenait ce matin qu'il y a encore 850 navires qui sont bloqués, peuvent pas traverser le détroit d'Hormuz. Et là, l'Iran qui est en Russie aujourd'hui pour parler avec les Russes, explique-nous ce que tout cela signifie.
Parfait. Donc, écoute, d'abord, il y a eu une offre très, très récente du ministre de la Défense iranien aux États-Unis. Et le ministre se concentre cette fois-là sur « Ouvrons le détroit d'Hormuz ». C'est assez flou, c'est assez vague comme offre parce qu'on n'a pas les détails. Qu'est-ce qu'ils sont importants, ces détails? Mais donc, c'est de s'entendre avec les États-Unis pour débloquer le détroit et qu'on reprenne la circulation, qu'on libère plusieurs des 800 quelques navires qui y sont bloqués actuellement. un problème majeur avec cette offre-là, c'est que ce qu'on dit aux Américains, du moins que le ministre de la Défense, c'est on va débloquer le détroit, puis le nucléaire, on va en parler, mais on va en parler plus tard. Et je ne vois pas comment le président Trump ou ses conseillers, comment les militaires peuvent dire on va donner le OK à une entente qui exclut, ne serait-ce qu'à court terme ou pour le moment, la question du nucléaire. Donald Trump a donné beaucoup de justifications pour ce conflit-là. Parfois, il s'est contredit. Mais s'il y a une chose à laquelle il est demeuré fidèle...
C'est le nucléaire!
Ben voilà. Donc, d'un côté, il y a cette offre-là. Donc, je ne vois pas comment les Américains, à moins de vouloir déclarer une victoire très courte et très rapide, là, regardez, ils ont craqué. Je pense que ce que ça vient témoigner, ce dont ça témoigne, cette offre-là, c'est qu'effectivement, l'Iran est plus faible qu'elle ne l'était auparavant. Et si c'est le ministre de la Défense qui parle, ça sème le doute aussi sur la cohésion ou l'unité du nouveau groupe de dirigeants, parce qu'on sait qu'on a tassé, éliminé un grand nombre de dirigeants. Maintenant, pourquoi on va du côté de la Russie? Vous aurez remarqué que le discours de l'Iran, bien sûr, fait porter l'odieux de l'échec des négociations aux Américains. C'est une chose qu'on est allé dire en Russie. Mais la Russie est un partenaire de l'Iran depuis des années. On peut parler de pétrole, on peut parler d'échanges en tout genre, on peut parler de sécurité, de protection, d'alliance. Donc, ce n'est pas anodin qu'on aille voir les Russes. Et les Russes, pour moi, avec les Chinois, sont à court terme. Dans le cas de la Russie, ça me semble assez évident. Et si on parle du moyen et du long terme, ce sont deux pays qui ont à gagner actuellement de ce qui se passe en Iran. Quand je dis à gagner, pour la Chine à court terme, c'est plus difficile. Il y a des pertes, ce conflit-là coûte cher. Mais chaque fois qu'on vient déstabiliser les États-Unis, affaiblir les États-Unis, à moyen et à long terme, c'est avantageux pour la Chine, qui a l'avantage, bien sûr, si on est Xi Jinping, d'être dans un régime autoritaire et non pas une démocratie. Quand Xi Jinping regarde les sondages chez lui, ça le trouble pas mal moins que si je suis un républicain en élection cette année.
En élection de mi-mandat, en effet. Luc, la liberté, voilà. Toujours un bonheur de te parler. On se reparle rapidement parce que ça va continuer de brasser en politique américaine, comme toujours.
Une bonne semaine à vous trois, puis une bonne semaine à vos auditeurs. Bye.
Merci. Salut. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également concepteur et producteur des capsules La Liberté en clair sur les différents médias sociaux. On en jase. Et on poursuit cette émission. Et on n'a pas le choix, on va poursuivre en sport avec la série Canadien Lightning.
Comment vont vos émotions? Comment vont les palpitations cardiaques, le stress, écoute, l'adrénaline? Honnêtement, j'ai l'impression que votre cortisol est dans le piton.
Les émotions sont diverses et les émotions vendredi soir, pas juste à cause que j'ai fait le gong show, mais à cause de Lane Hudson est à son maximum.
Cherchez revenir, Texier, zigzag, ramène derrière pour Hudson, le tir!
Alex Laramé et Mathias Turcotte se joignent avec nous pour ce bloc sport. Alex, on a vécu l'extase, l'euphorie vendredi soir. Les partisans du Canadien hier chantaient le olé olé en deuxième période alors que Cole Caulfield venait de marquer son premier de la série, un but en avantage numérique.
Vous êtes excusé aussi d'avoir été bully avec un joueur.
Oui, avec Kirby Dack qui a marqué un but et qui a récolté une passe vendredi, en effet. Mais... Brandon Eagle a marqué son 5e et 6e but de la série pour le Lightning de Tampa Bay en 3e période hier. Résultat, comme on l'avait dit Alex Laramé, c'est 2-2 dans cette série-là qui va être interminable.
Ben ouais, tu sais, je pense qu'on l'a vu dès le premier match là, qui s'est terminé en prolongation, comme quoi les deux équipes étaient très équilibrés. Là, c'est une série de tous les moments. Puis tu l'as dit, on a passé par toute la vague d'émotions du lancer frappé de Lane Hudson vendredi que personne n'avait vu venir, surtout pas Vasilevski, là, qui a complètement été surpris par ce tir qui a traversé tout le monde. Puis là, hier, ça a été une sortie plus difficile. Là. Pascal mentionnait Kirby Dack. T'sais, on va y donner. Il est sorti très fort vendredi. J'ai envie de dire, malheureusement, on a vu le bon vieux Kirby Dack dans le match d'hier. En fait, on ne l'a pas vu, tout simplement. Non. C'est plate, mais ça a un peu été ça.
Mathias, Alex, je commence avec Mathias Slafkovský. Oh! Qui s'est fait geler en plein centre de la glace hier. Le premier trio du Canadien ne va pas bien à 5 contre 5. On essaye de quoi de complètement différent pour le cinquième match?
Hey, c'est une bonne question. Pour vrai, je ne sais pas à quel point je suis prêt Parce que la question se pose, est-ce que descendre Slafkovski, ça...
Ben, Slaf allait bien avec Kapanen et Demidov.
Ça pourrait être une option de descendre avec Kapanen et Demidov, mais à ce moment-là, c'est qui que tu mets sur la première ligne?
Texier joue bien?
Mais Texier joue bien avec Bodzuk aussi.
En effet.
Encore une fois, hier, ça s'est bien passé les deux ensemble. Est-ce que tu veux...
Zach Bodzuk a des méchants playoffs.
En ce moment, Texier puis Bodzuk, dans les deux derniers matchs, en fin de semaine, c'est ton seul trio qui a vraiment... Faites quoi de concret à 5 contre 5? Est-ce que tu vas aller séparer? Je comprends que Dak n'a pas nécessairement eu la plus grosse game hier, mais encore une fois, c'était un de nos meilleurs trios à 5 contre 5, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que tu veux séparer un de tes seuls trios qui fonctionne depuis le début de la série pour essayer de faire fonctionner un autre trio quand tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas? Moi, pour vrai, ça fait 4 matchs qu'on joue bien, ça fait 4 matchs qu'on s'en sort malgré quelques difficultés. Faut pas oublier, même si nous, on n'a pas nécessairement tant d'opportunités en zone offensive à 5 contre 5, eux autres non plus, on n'en a pas beaucoup à 5 contre 5.
En effet, ça joue
c'est
beaucoup.
C'est un jeu hermétique des deux côtés.
Ah oui, hier, on l'a vu, 20 tirs contre 17.
Pour moi, pour vrai, puis Martin Saint-Louis nous l'a un peu remis d'en face mercredi, vendredi dernier en gardant Dak puis en disant « je garde mon alignement pareil ». À partir de ce moment-là, l'alignement fonctionne. Moi, je pense qu'on peut continuer avec ça au cours des prochains matchs.
Le Canadien a retranché Ryan Backer à Laval, ce qui fait en sorte que là, on aurait 6 défenseurs, mais d'après moi, on a un 7e qui arrive. C'est le blessé Noah Dobson. Je m'attends à le voir en uniforme mercredi. Toi, Alex?
Ben, encore aujourd'hui, il a patiné en solo. Là. Du côté du Canadien, on a dit qu'on allait avoir des nouvelles dans les 48 prochaines heures. Mais moi aussi, là, je pense qu'il va être de retour dans l'alignement. Puis pour venir au point précédent de Mathias, moi aussi, je pense pas que c'est on a besoin de tout chambouler. Là. Je veux dire, cette série-là, ça s'est joué à un but dans tous les matchs.
C'est vrai.
C'est très, très, très serré. T'sais. C'est vraiment... Ça joue sur des petits détails. Puis moi, je trouve que le Canadien manque d'opportunités. C'est pas qu'on manque de chance. Suzuki, encore hier, était tout seul en plein milieu de l'enclave. C'est le genre de chance qu'habituellement, en saison régulière, ces gars-là marquent. Fait que je pense que c'est juste de faire preuve d'un peu plus d'opportunisme puis de rajouter un Dobson. Ça va aider justement l'attaque du Canadien parce qu'on va sûrement sortir un Struble ou un Jack Eye qui font un travail honnête depuis le début des
séries. Vraiment?
Mais offensivement, Dobson est capable d'en donner plus, ça c'est sûr.
Ça me tente de vous amener ce questionnement-là. Est-ce qu'on est vraiment prêt à sortir un Struble ou un Jack Eye de l'alignement? Par exemple, Martin Saint-Louis, est-ce qu'il pourrait décider de jouer à 7 défenseurs à la place et sortir par exemple un Oliver Kapanen qui joue 10 minutes par partie depuis le début des séries? Puis qui apporte pas nécessairement grand-chose à l'équipe.
Ça pourrait être une option, honnêtement, mais je pense que avec les performances de Suzuki, Caulfield et Slafkovski qui sont pas à point 5 contre 5, il va hésiter à doubler ses meilleurs joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex?
Ouais, moi, je pense qu'historiquement, c'est pas quelque chose que Martin Saint-Louis nous a vraiment habitués. Puis on le sait que les joueurs aiment pas ça non plus, jouer à 7 défenseurs. Mm-hmm. On joue jamais avec le même partenaire. J'avoue que je suis d'accord, Kapanen, il est invisible depuis le début des séries, mais ça reste un jeune joueur. C'est plate à dire, mais il gagne de l'expérience quand même,
c'est
même
vrai.
Si on le voit pas.
T'as entièrement raison.
Je pense que c'est important. Puis non, je pense qu'on va tasser probablement un Jack Eye pour faire
entrer. Ça va faire mal parce que Struble et Jack Eye sont deux éléments extrêmement importants depuis le début des séries. Mais en même temps, pour rentrer Dobson...
Exactement, Dobson est très, très,
très... La décision
n'est
pas trop difficile à prendre non plus.
Si on veut pas trop brasser à Montréal, je vais vous faire une prédiction. Moi, ça va brasser durant la saison morte à Ottawa, éliminant 4 petits matchs contre les Hurricanes de la Caroline. On a entendu dans l'année qu'il y avait eu du chichi dans le vestiaire. Voici ma prédiction. Il était censé y aller il y a de cela 7-8 ans. Patrick Roy va débarquer comme entraîneur en chef des Sénateurs d'Ottawa.
Ben écoute, on le savait, hein. Quand il était engagé par les Islanders, les Sénateurs étaient intéressés, mais pour une raison qu'on ne comprend pas encore, ils voulaient attendre à la fin de la saison, puis ils se sont fait avoir.
Exactement 13h10, vous êtes à l'écoute de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase. Va suivre par la suite le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. Et par la suite, Marceau le soir avec Marc Bellemare. Les lundis, toujours des conversations très intéressantes à 18h. Je vous rappelle, podcast des grands événements avec Denis Gravel et le journaliste Stéphane Cadoret du Journal de Québec. On revient sur la disparition des Nordiques. On y prendrait-tu une Nordique en pleine effervescence de série? Une bonne vieille série canadien-nordique. Mon Dieu, ce que ça serait bon. À la météo, c'est 3 beaux jours qui s'annoncent. 21 degrés ensoleillés pour aujourd'hui, 19 degrés généralement ensoleillés pour demain et 16 degrés alternance de soleil et nuages pour mercredi. Vraiment, c'est tout simplement fantastique. Plus longtemps, c'est de la pluie après ça de jeudi à dimanche, mais le temps de changer, comme disait ma grand-mère. A le temps de changer. Bon, vendredi, Pascal et Mathias. Mathias est resté avec nous justement pour en parler. J'ai fait mon premier show d'humour, le Gong Show, à la salle Albert Rousseau. Je dois vous avouer que c'est toute qu'une expérience, honnêtement. J'ai trippé ma vie de réussir à faire rire des gens dans une salle comme la salle Albert Rousseau à 1300 personnes.
Quand Yann te décrivait comme... pas comme...
comme pas drôle.
Je
reprends ses mots.
Ben, non, mais il y a raison. Je suis pas quelqu'un que l'humour...
T'es agréable. Oui. Fais bon vivre à tes côtés. T'es quelqu'un d'agréable, de comique, mm-hmm. mais t'étais pas un humoriste.
Non, je suis pas un humoriste. Puis dans ma gang de chums, ça a jamais été moi non plus qui a fait le plus rire. Tu comprends? Ça a arrêté mon chum Alex, qui est le bouffon de la gang, qui se serait présenté sur la scène de la salle Albert Rousseau, puis qui aurait fait rire tout le monde, qu'on n'aurait pas été étonné. Ça aurait été mon chum Tommy, quand il fait ses imitations, on n'aurait pas été aussi étonné. Il est aussi bon que Denis Gravel pour ses imitations, mon chum Tommy. Mais que moi, je me lance sur les planches de la salle Albert Rousseau dans ma gang de 10 chums d'enfance, ça m'attend que j'aurais été le 8e choix.
Quand même, là.
C'est quand même bon. Puis, je tiens à préciser que les 7 autres devant lui sont drôles, mais c'est pas des humoristes pour autant.
Exactement. Alors là, moi, je me présente à la salle Albert Rousseau. J'arrive en même temps que le collègue Nate, qui lui l'a déjà fait, qui a déjà fait des numéros d'humour. Donc, j'arrive en même temps que lui à la salle Albert Rousseau. J'arrive dans la loge. Mais là, moi, je me rends compte d'une chose. Premièrement, la surprise de Charles et d'Anthony de voir que j'ai pas choqué. Les deux viennent me voir pour me dire « Hey, Jeff, t'es sûrement... »
Charles et Anthony, il y a du monde qui savent pas c'est qui.
Charles là. Deschamps, Anthony Rémillard, qui sont les humoristes qui s'occupent du Gong Show. Donc, c'est eux qui ont créé le Gong Show, puis c'est eux les juges.
Parce qu'ils étaient venus en entrevue, puis t'avais lancé comme ça, là, « Va vite, je vais le faire, moi. » Fait qu'eux, ils disaient « Ben oui, c'est ça,
ben oui, il avait dit à Marceau « Tu le fais-tu? » Puis Marceau avait dit « Jeff va le faire. » Puis là, moi, j'ai dit « C'est bon, je vais le faire. » Alors là, les deux...
Il t'a envoyé en dessous d'autobus, c'est dans le ça.
Les deux me partagent. Le moment en disant « Écoute, tu peux pas savoir comment on s'est fait choquer. » On est rendu à tout près de 300 représentations. On a fait plein d'entrevues médiatiques où le monde disait « Ouais, je vais le faire. » Puis ils choquaient tout.
C'est sûr, c'est stressant.
Mais toi, t'es là pour de vraies félicitations, déjà là en partant. Mais là, après ça, moi, je me retrouve dans la loge. Puis là, il y a plein d'agents, agentes, d'artistes qui sont là, dont l'agente d'Alex Barrette qui m'a dit, soit dit en passant, que je suis drôle. Donc... Mais là, je remarque ça, tu sais, qu'il y a des humoristes qui sont là au Gong Show.
C'est là que t'es drôle.
Mais c'est pas la première fois au Gong Show. Puis là, ils en ont déjà fait au bordel à Montréal. Ils en ont déjà fait à la rue Saint-Jean ici.
Fait qu'ils prennent un peu comme une carte de visibilité. Là.
Exactement. Alors que moi, je vais le dire comme ça, je suis un fucking nowhere dans la place. Tu sais, il y a personne qui me connaît. Il y a personne qui sait je suis qui. Puis il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Là. Pendant que les agents vont parler aux autres, moi, je suis dans mon coin avec ma petite bière, puis j'écoute le Canadien qu'on ne t'aime pas bien. Là. J'ai rien à faire, moi, là je suis pas courtisé par personne. Ils se disent, qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Donc là, déjà là, je trouvais ça weird de me retrouver parmi cette gang-là et me dire, OK, c'est sûr qu'eux autres sont drôles parce qu'il y a des gens qui veulent les voir sur scène, des agents qui se disent, ouais, lui, là, c'est peut-être le prochain Tibarette. Mais moi, il n'y a personne qui se dit ça de moi. T'es même, il passe à côté de moi, il me regarde en voulant dire, il est qui? C'est qui? Pourquoi il est là? Là, je leur explique, mais je suis un animateur de radio. Puis, je vais faire, pour la première fois de ma vie, de l'humour. Mais là, ils disent, première fois à Saint-Albert Rousseau? Non, première fois. Ben, première fois, t'as déjà fait un numéro d'humour dans un bar ou quoi que ce soit. Non, première fois.
C'est un peu ça le concept du Gong Show.
Oui.
C'est ouvert à tous, là.
C'est ouvert à tous, mais pour de vrai, c'est rare que quelqu'un va venir au Gong Show et que c'est sa première fois en stand-up.
Ah, je pensais que oui, OK.
Parce que souvent, les personnes qui vont venir au Gong Show vont avoir fait au moins 2-3 shows dans un bar. Là, pour faire une première fois au Gong Show, à Albert Rousseau, devant 1300 personnes, là, Jeff, je vais te dire comme ça, mais faut que t'aies des méchantes couilles.
Ben d'ailleurs, mon cousin m'a texté, qui était dans les estrades le lendemain, pour me dire « t'as les plus grosses couilles de la famille ». Fait que là, j'étais full heureux de ça. Mais tout ça pour dire que là, je me dis « OK, bon ». Mais là, ils me regardent et disent « mais t'as pas idée là, de ce que tu t'en vas faire hein? ». Ben je dis « je m'en vais faire un numéro d'humour sur la scène, sur la scène de la salle Albert Rousseau ». Fait que là, OK. Fait que là, meeting d'avant. Là, tu te retrouves sur la scène. Là, ils disent, ouais, là, il y a un X, là, il y a une ligne là, il y a ça. Faut que tu fasses en sorte de pas sortir.
Déjà que t'es stressé
de là,
pour ton texte, ta première
parce
expérience, que
là,
c'est pas ce que tu fais. Faut
le cadre, la télé, peut-être, etc. OK. Et là, tu regardes la salle Albert Rousseau qui est vide et les lumières sont allumées. Donc, tu vois l'ensemble des estrades. Et là, j'avais l'impression que les corbeilles étaient rendues sur moi. Tu sais, tu comprends? Là, je me disais, hey, my God, il va y avoir du monde à soir.
Ça va être rare.
Et là, je passe 8e sur 12.
Hey, t'as le temps d'angoisser. Honnêtement, ça, c'était quoi, mettons, ta position préférée? T'aurais-tu préféré être en premier?
Moi, j'aurais starté ça, j'aurais brisé la glace, je me serais sauvé après, puis j'aurais écouté le Canadien.
C'est pas pour ça que je disais ça.
Mais là, j'étais 8e sur 12. Fait que t'as le temps de voir des numéros.
Oh, oui.
T'as le temps d'en voir des vraiment bons. Tu te dis, hé, tabarnouche, je serais jamais à cette hauteur-là. Mais t'as le temps aussi d'en voir se planter, que tu te dis, ah, ben, sais-tu quoi? Il y en a deux qui ont été gagnés dans les 7 premiers. Tu te dis, je me fais gagner. Je suis comme eux autres. Puis eux autres, ils ont déjà fait des shows d'humour. Donc, c'est pas grave. Et là, je remercie Nate qui m'a fait un pep talk parce que moi, je passais 2e après l'entraque. Nate a passé 3e et en passant, il a arraché à la salle Albert Rousseau. Là. Ça le rit. Il était dans les 3 meilleurs, moi, selon moi, des numéros. Là. Je te dirais, il y a lui, Fred Bibeau, qui a fait vraiment un bon numéro. Puis Alex Martineau, je pense qu'il s'appelle. Hey, un ingénieur de 50 ans qui a commencé à faire de l'humour. Il me fait tordre.
J'adore les gens qui sortent de leur zone de confort.
Ah, il me fait tordre de rire. Il a starté ça. C'était son premier gang show, mais les gars, Anthony et Charles, l'avaient déjà vu dans plusieurs petits shows d'humour. Puis ils ont dit, on t'a mis en premier parce qu'on savait que t'arracherais la salle. Il l'a arraché. Un numéro sur le fait qu'il vient de Saint-Marc-des-Carrières. C'était tellement comique. Donc là, moi, Nate me fait un pep talk, puis il me dit, Jeff, sais-tu quoi? Va chercher le premier rire. Puis une fois que tu vas être allé chercher le premier rire, c'est une tonne de pression qui va descendre. Et là, tu vas t'amuser avec la foule. Mais là, je me disais, ouais, va chercher le premier rire, facile à dire. Mais je vais-tu réussir à aller chercher le premier rire? Ou ils vont tous me regarder, puis après une minute, ils vont dire, gagne-le, il est pourri, pourtant, ça paraît qu'on n'a jamais fait.
Ou il va avoir un malaise monumental, parce que ta thématique, c'était quand même sur le suicide.
C'est ça.
T'as tellement mis des difficultés.
Oui, puis là, en même temps, ça c'est bon que t'amènes ça, parce que moi, j'arrive, là, puis là, j'ai ma thématique du suicide.
Parce que t'as déjà fait une tentative.
Parce que j'ai déjà fait une tentative de suicide.
Vous avez besoin d'aide
en passant
les ressources.
Exactement, 866 appel. Texto, c'est 53-53-53. Vous pouvez également consulter le 811, option 2. C'est les services sociaux. Mais moi, je me rends compte que les 7 qui ont passé avant moi, là, les autres font vraiment des jokes-jokes. Ils ne sont pas des sujets dark comme moi, là. T'sais, par exemple, Nate, son speech, c'est... Moi, d'habitude, je suis un golfeur, mais là, j'avais le goût de puncher tout le monde dans la gorge, puis il parle de monde au Costco, puis t'as dit ça à toi. Fait que, c'est juste drôle. Mais moi, je me dis, OK, je vais avec de quoi de complètement différent. Alors, voici, mesdames et messieurs, ma prestation de 2 minutes 55. Parce que vous allez le voir à la fin, malheureusement, j'ai été gagné alors qu'il restait 5 secondes.
Puis là, on va faire attention, parce que moi, ce matin, je l'ai entendu, puis les gars riaient par-dessus. Fait que là, on va faire attention, parce que ça empêche aux auditeurs d'entendre.
C'est ça. Donc, voici la prestation. 418-971-101 pour me donner votre appréciation, puis on en parle une petite minute après.
Ce soir, je vous présente, mesdames et messieurs, Jeff Fortin.
Ça, on va pouvoir avoir une vidéo aussi.
Oui, dans un mois sur YouTube.
Parfait.
Il y a 7 ans, j'ai fait une tentative de suicide en tentant de me pendre dans mon sol. Je vais être bien honnête avec vous à ce soir. Ici, devant 1300 personnes au Gong Choice à l'Albert Rousseau, car est-ce que je suis frustré d'avoir raté ma shot? Non, mais tu sais, c'est pas que j'aime pas ma vie, mais honnêtement, je pense qu'au Québec, on devrait démocratiser le suicide. Un peu comme on l'a fait avec l'aide à mourir. Ça nous permettrait vraiment d'alléger les problèmes sociaux. Parce que toi, on se le cachera pas, tu te sens pas mal plus léger quand tes pieds touchent pas à terre.
Tu l'as eu vite, ton premier rire. Hein?
Oh.
Fait que je me propose, je vais aller voir la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, pour lui présenter mon plan lundi prochain. Parce que, tu sais, suicide, c'est dans mes cordes. Pour que ça fonctionne, par contre, il va falloir avoir une campagne de pub qui va venir parler aux gens. Tu sais, toucher leurs cordes sensibles. J'aurais vraiment le goût de vous en présenter une couple là, de publicités que j'ai pensées. Premièrement, santé. Égorgez-vous pour désengorger les urgences.
Ça fait pas de sens.
Non, mais t'sais, fait 40 ans que le gouvernement cherche comment faire, puis c'est facile de même. Pour ceux qui ont des problèmes d'endettement, tu te sens déjà étouffé et passe à l'acte.
Qu'est-ce que tu m'entends?
Je sais. J'adore.
Pour ceux qui sont sur la... Tu sais, qui vivent un moment critique de leur vie, l'exemple, ma blonde que j'ai depuis 20 ans, j'ai deux enfants, viennent de me laisser, ben écoute, t'es déjà sur la corde d'arrêt, fait qu'aide-nous à faire le nœud. Pour ceux qui, comme moi, qui a 7 ans, voulaient rien savoir d'avoir de l'aide pour s'en sortir, écoute, t'as refusé à main tendue, prends la corde du pendu.
Et là, ça a eu parce qu'il se lève pour frapper sur le gagne.
Hey, pour vrai. Ça, on en avait parlé, hein, de s'il se levait pour gagner, que t'allais dire ça. Je trouve ça très bon. Moi, j'aime ça, l'humour. On appelle ça de l'humour noir, là. Je sais pas si je suis en train de faire une erreur.
C'est carrément
disant,
ça.
Mais tu sais, Mike Ward et tout, c'est d'art, mon style d'humour. Tu sais, quand je suis pas bien, mais que ça me fait rire, je me dis, ouh, la tête est allée là.
Ben, c'est là exactement que je laisse surprendre les gens parce que, tu sais, moi, je suis good vibes only. Puis là, d'ailleurs, après, là, avec le speech j'ai juste, j'allais le voir dans à peu près un mois sur YouTube. Il me demande si c'est vrai. Je lui réponds que oui, c'est vrai, ma tentative de suicide. Il me demande comment j'en m'en suis sorti. Puis là, j'en profite pour rappeler là, un 866 appel. Puis je montre mes souliers que j'ai dans les pieds sur les boulevards en disant maintenant je vis selon la thématique Good Vibe Only. Et là, j'ai eu une vague d'amour de la salle, là, des applaudissements nourris. Donc, ça a été vraiment une expérience extraordinaire que j'ai vécue. On disait aller chercher le premier rire. Je pensais jamais que j'irais chercher le premier rire en disant il y a 7 ans, j'ai fait une tentative de suicide en essayant de me pendre.
Mais c'est le malaise.
Mais c'est le malaise. Puis t'entends très bien Charles, un des juges, faire oh my God,
c'est trash.
Comme, tu t'en vas où? Puis par la suite, quand j'ai parlé avec Pascal Cameron, justement, humoriste, qui était juge invité, il m'a dit écoute, c'était hallucinant ton numéro. Il dit j'adore quand on va toucher à des sujets comme ça, que d'habitude on rit pas et là qu'on rit. Il y avait juste trop de répétitions avec le mot corde. Mm. Donc, ça serait ça que j'aurais travaillé. Et le fait aussi que je me promenais beaucoup trop sur la scène. Mais écoute, je savais pas comment mettre
J'étais tellement nerveux.
J'étais tellement nerveux, hein, oublie ça. Je me promenais. Puis moi, naturellement, quand je parle au
tu
téléphone,
fais en
exemple,
onde
chez
aussi,
nous,
là.
En onde, gars, je vais me promener de
pas
même.
Pas juste
me
ça, tu es tout le temps sur un pied ou un
Exactement.
Autre pied.
Exactement.
On le voit sur Twitch.
Donc, je danse. Donc, sur la scène, évidemment, j'ai marché beaucoup. Mais je pensais jamais faire rire le monde demain.
Ben, honnêtement. Pour vrai, good job. Puis je tiens à dire, t'aurais pas pu espérer mieux comme première expérience. Moi, ça me fait vraiment rire. Là, des shows que tu te sens un peu malaisé, mais à la fois, les jokes sont bonnes. Puis l'humour noir, comme t'as dit, Pascal, moi, je trouve ça excessivement drôle. Là. Mike Ward, c'est un de mes humoristes préférés pour ça. Puis aussi de le faire devant autant de personnes, d'être capable de te souvenir de ton texte devant autant de personnes, ça c'est tough en maudit. Mm-hmm. Le monde y pense pas. Fait que pour vrai, je pense que c'est une réussite. Puis comme tu sais, 1300 personnes, faire rire le monde. T'as comme coché toutes les cases de difficultés que tu pouvais cocher. Là. Tu t'es comme dit, première fois, je l'ai fait devant 1300 personnes au Gong Show qui va être diffusé sur YouTube en parlant de suicide. T'avais beaucoup de difficultés pour un premier show, puis t'as excédé quand même.
Ah, mais j'ai adoré l'expérience. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referais demain matin. C'était vraiment très, très, très plaisant. Merci.
Vas-tu le refaire?
Pour de vrai, si quelqu'un me le demande, oui. Oh, oui, je vais aller le refaire.
Ah, il se fait désirer maintenant.
Non, mais tu sais, il y a quelqu'un qui était là, justement, dans la loge qui organise des soirées d'humour à la souche. Puis il me disait, hey, j'aimerais ça qu'on se recontacte. Moi, j'ai dit, contacte-moi.
T'es peut-être rendu humoriste, mais on le sait pas.
Peut-être.
Là, il va falloir que tu fasses un choix carrière, dans ta carrière, là, parce que politicien, animateur de radio,
humoriste,
ou encore humoriste,
conférencier.
Ouais, j'ai pensé.
Coach de hockey.
Ouais. On va l'annoncer jeudi officiellement ici en Onde. On va faire une activité de financement à la scène avec le groupe Big Muff Acoustique pour la Fondation Catherine Guillet. Et j'ai pensé peut-être juste faire un petit 5-6 minutes d'humour au début. pour juste me pratiquer.
Ça commence de même.
Oui, non, c'est ça, t'es rendu un passionné.
Oui, oui, juste pour me pratiquer.
Nathan aussi avait fait ça juste pour le fun à un moment donné, puis s'est ramassé à faire la première partie d'Alex Barrette.
Rien que ça. C'est ça. Alors oui, bien hâte de voir. Merci à tous les auditeurs qui écrivent, auditeurs, auditrices qui écrivent à l'heure actuelle pour me féliciter. Puis Hugo, oui, t'as raison. Il dit « Aïe, aïe, Jeff, je suis mal. » Oui, oui, t'as raison, c'était dark, mon affaire. Mais c'est une autre façon de faire de la prévention. Il n'y a pas juste une façon dans
leçon de vie là-dedans, en passant, honnêtement, sortez de votre zone de confort.
Oui.
De n'importe quel âge.
Ah non, non, ça fait vraiment du bien de sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, on a pris beaucoup de temps sur le Gang Show, donc on va faire une petite pause, Pascal Sévin. Par la suite, tu nous parles justement de médias sociaux interdits pour les jeunes de moins de 16 ans. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Moi, je l'ai déjà dit, je suis contre ça parce que je suis plus pour une pédagogie avec nos enfants. Alors, j'ai hâte de t'entendre à cet effet à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. 13h32, émission On en jase. Votre émission d'actualité du midi, de midi à 14h. On a fait un petit intermède culturel avec ma prestation Gang Show de vendredi. Parlant de culturel, angine de poitrine. Ça sera annoncé mercredi, grosse prise du Festivant de Lévis. On les voyait peut-être la soirée qui manquait quelqu'un au FEC. Ça sera au Festivant. Il faudra se déplacer sur la rive sud. Parlant de se déplacer, Pascal, il y a des problèmes dans la circulation?
Oui, sur Robert Bourassa Sud, à la hauteur de l'autoroute Félix-Leclerc. C'est la voie centrale et la voie droite qui sont bloquées. On a un incident, puis c'est sûr, ben, ça ralentit le secteur en même temps. On wear!
Yes! En manchette, avant de parler des médias sociaux pour les moins de 16 ans.
C'est venu à nos oreilles sur l'heure de 12h30 et on continue de suivre ça. Par contre, le confinement à la prison de Québec, c'est depuis 8h30 ce matin. Il y aurait une possible arme à feu entre les murs. Alors là, on se met à fouiller tout le monde, tous les détenus de façon sécuritaire. Vous comprenez que ce n'est pas aussi facile que l'on souhaite. Pour l'instant, on parle seulement de cette possible présence d'un pen gun. Là, c'est une arme à feu artisanale. Il n'y a rien de confirmé. Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix, en a parlé. Et là, parmi les secteurs qu'on a confirmés, c'est sûr, c'est les shows. Hein? Secteur, entre autres, où se trouvent plusieurs membres du North Savage Family. C'est les anciens de la gang à Picturemel, soit de la Blood Family Mafia qui se sont rassemblés et organisés là, depuis son arrestation. Quelques dizaines de détenus dans les ailes ciblées pour l'opération là, qui sont fouillées en ce moment. Personne n'a été blessé au moment où l'on se parle. On attend encore d'autres informations. Christine Fréchette à Washington pour une mission économique éclair. La première ministre rencontre en 24-48 heures des acteurs politiques, des acteurs économiques pour défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est le début de l'enquête publique aussi sur le décès de Maëlyn Lugès aujourd'hui au Palais de justice de Québec. C'est une vingtaine de témoins qui seront entendus pendant 5 journées, dont les parents de l'ado retrouvé décédé dans un ruisseau près de son école à Saint-Jean-Chrysostome le 7 novembre 2024. Il y avait un premier rapport du coroner qui avait été publié. On concluait un décès accidentel par noyade, possiblement attribuable à un malaise. Et Mark Carney annonçait ce matin la création d'un fonds pour un Canada fort, le premier fonds souverain pour le pays. Le premier ministre canadien invite les concurrents et les concitoyens du pays à investir dans leurs finances autres que ce qu'on connaît actuellement, soit dans des grands projets nationaux pour faire du pays une superpuissance énergétique et diversifiée sur les marchés d'exportation. Ça veut dire quoi? Entre autres, des projets de gaz naturel liquéfié. Mm-hmm. On s'en va vers essayer de convaincre tout le monde là-dedans.
Exactement. Dans les dernières minutes de l'émission, on va parler avec Mathias Turcotte du polymètre de l'Université Laval sur les promesses tenues par Mark Carney. Oui. Ça fait un an déjà qu'il a été élu.
Et il y a eu un point de presse là, du côté de la Maison-Blanche dans les dernières minutes. En gros, on revenait sur ce suspect-là qui a ouvert le feu lors d'un rassemblement journaliste et politique samedi soir avec Donald Trump. Mais ce qu'on disait, manifestement, c'était que Donald Trump a été courageux, etc. Mm-hmm. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui en ressort. Là.
Exactement, on verra la suite des choses. Cette semaine, Pascal, tu m'as intéressé énormément parce que tu me disais, hey, Jeff, il faut absolument qu'on parle des médias sociaux et des jeunes, de l'interdiction aux jeunes de moins de 16 ans. Je l'ai dit avant la pause, moi, je suis contre. Je veux qu'on travaille en pédagogie. Je veux pas qu'on empêche les jeunes de toucher à des moyens de communication qu'ils anyway, vont utiliser plus tard. Fait que j'aime autant mieux leur renseigner que de leur interdire.
Ça fait partie de la vie actuellement. Puis les enfants sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'études sortent comme quoi c'est hyper néfaste. C'est hyper néfaste pour le développement du cerveau, pour les liens sociaux, pour la dépendance. Et là, on souhaite dans le monde en entier s'y attaquer.
Ben oui, on l'a fait en Australie, si je ne me trompe pas.
Entre autres, et ça fonctionne pas vraiment.
Ouais, c'est ça. Tu m'as attiré mon attention en me disant « Hey, Jeff, sais-tu quoi? C'est un échec. »
Super texte d'Alain McKenna dans la presse dans les derniers jours qui, moi, a allumé ma petite bougie de « Hein, on dirait que moi, je suis pas certaine. » Parce que on a tenté d'implanter des choses et au pays, en ce moment même, à Montréal, il y a des experts en technologie qui souhaitent qu'on ait une solution qui a été, ils disent, éprouvée ailleurs pour corriger la situation puis pour aider les parents à reprendre le contrôle du temps d'écran de leurs enfants. Ces solutions-là, ben, c'est entre autres avec des captures du visage de leur enfant pour estimer l'âge, avec un genre de robot qui s'assure que tu as l'âge requis. On voit aussi certains pays demander l'assurance maladie, le numéro d'assurance maladie ou d'assurance sociale si on pousse à certains endroits. Mais tout compte fait, c'est un échec. Comment est-ce que nous, on peut commencer à travailler là-dessus si c'est un échec ailleurs? Quels sont ces outils-là? Je vous laisse entendre Alain McKenna, qui est journaliste des technologies et courants sociaux du côté de la presse.
On va au dépanneur, puis on se fait carter pour plein de trucs. Ça ne doit pas être différent sur les plateformes numériques, donc ça ne doit pas être compliqué d'y arriver. Donc, les études sérieuses sur le sujet commencent à s'empiler. Les outils existent, il faut juste les rendre plus accessibles, puis après ça, ceux qui veulent s'ajuster ou corriger le problème, ou peu importe, peuvent le faire, sans que ça devienne contraignant pour tout le monde, mais quand même que ce soit effectif et que ça fonctionne.
L'affaire, c'est ça. Ça ne fonctionne pas vraiment. 95% des stratégies pour aider les parents à contrôler le temps d'écran, c'est déjà un flop dans les pays qui le testent. On l'écoute.
L'Australie, le Brésil, le Royaume-Uni qui ont été très stricts. L'Australie est un bel exemple parce qu'ils ont suggéré d'utiliser un outil d'estimation d'âge qui est 100% confidentiel, qui repose sur l'appareil de l'utilisateur. Donc, il n'y a pas d'accès à des serveurs, il n'y a pas d'échange de données biométriques avec un tiers. Ça ne sort pas de la machine, ça reste très privé, confidentiel. Ça crée une clé d'accès, comme un mot de passe, c'est sécurisé. C'est plus strict que ce qu'on a chez nous, c'est pas 100% à l'épreuve des contournements. Déjà, les jeunes contournent avec des photos de leurs parents, avec des fausses cartes d'identité, des choses comme ça.
Fait que là, tu me regardes. Peut-être que vous vous dites, voyons, passe, tu dis que ça fonctionne pas vraiment. Puis on entend Alain McKenna dire, ben c'est facile à instaurer, ouais. C'est facile à implanter.
Mais c'est facile à contourner
aussi.
Mais
c'est facile à contourner. Fait que c'est pour ça que mon constat, moi, c'est que ça ne fonctionne pas.
Dans le fond, on revient aux bonnes vieilles. Tu voulais aller dans un bar, tu vas faire une fausse carte.
Mais ça ressemble.
Mais là, tu vas te faire une fausse carte virtuelle pour les médias sociaux.
Ça ressemble à ça. Puis là, je suis allée plus loin. J'ai dit, ben je vais parler à Patrick Mathieu, qui est expert en sécurité informatique. Et pour lui, ben, c'est qu'on s'attaque aux mauvais problèmes en demandant d'avoir ce genre de choses. Là installer, instaurer, soit capture de visage, numéro, prouver ta date de naissance, passer par le contrôle parental.
C'est le gouvernement qui doit se battre contre les réseaux sociaux. Puis on sait que les réseaux sociaux peuvent gérer les choses comme il faut parce qu'ils ont été capables de bannir les médias au Canada sur Facebook et autres. Fait que si on les force avec une loi de dire si vous ne changez pas la manière que votre réseau social fonctionne pour ne pas être addictif, pour restreindre du temps, pour mieux faire les choses, ben on vous bloque au complet. Mais il n'y a pas personne en politique qui a le courage et la compréhension peuvent s'attaquer à ceux-ci.
Ouais, puis en même temps, moi, Pascal, pourquoi on les bloquerait au complet? Je comprends là, qu'ils utilisent des algorithmes, tout ça, puis ça t'amène à devenir addictif. Mais je reviens à mon point de base, tu sais. Contrôlons le temps de nos enfants sur les écrans, enseignons-leur, allons-y avec la pédagogie. Je vais prendre un exemple dans ma vie personnelle. Ma conjointe Val, en fin de semaine, qui a dit « Hey! » De vendredi soir, 5h, vu qu'on va voir G au Gang Show, jusqu'à samedi soir, 5h, pas d'écran, il va faire beau, on va aller jouer dehors, samedi. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dimanche, les gars sont sortis avec leur vélo naturellement.
Mais il y avait beaucoup d'articles aussi sur le fait qu'un jeune se dit « Si mon ami a le droit, pourquoi moi j'ai pas le droit? » Fait que des fois, ça va amplifier une tendance, amplifier un besoin, une envie. Quand c'est interdit, on est jeune, on veut y aller. Ouais. Puis l'éducation, des fois, on se dit c'est stupide, là. Il me semble que c'est la base. Fait qu'on s'attaquera pas à ça. Ce sera pas ça le nœud du problème. Puis effectivement, parce que je suis allée confirmer, si on me dit « Ah, c'est facile à implanter, mais ça marche pas », on me dit de l'autre côté, c'est le gouvernement qui devrait s'en charger puis appliquer des lois. Bien, qui de mieux placé que Marie-Josée Michaud, qui est consultante spécialisée en dépendance, en travaillant au Grand Chemin. Elle travaille avec des jeunes de 13 à 17 ans directement liés là-dessus. Puis elle a dit, bien, je vais corroborer le fait que c'est par l'éducation.
À partir du moment où on va aller prélever des données, ça peut devenir un peu inquiétant, préoccupant. Mon autre grand point d'interrogation, c'est comment on peut aussi outiller les parents qui sont les pourvoyeurs de cette ce produit-là, là, de cette substance-là, si on peut parler en termes de substance pour revenir à la dépendance, c'est les parents qui les donnent, mais les parents ne savent pas trop comment encadrer ça. Donc, est-ce qu'on va fournir de l'information, de la sensibilisation, de la prévention auprès des parents?
Fait qu'on arrive à croiser des chemins où, malheureusement, c'est l'enjeu majeur dans notre société en ce moment. C'est le fait de déchirer sa chemise sur le fait de se faire dire quoi faire quand on est parent.
Ouais.
Ça, là, ça passe jamais. Mais en ce moment, ce serait la clé par excellence, avec approbation mondiale là-dessus, parce qu'on a essayé de d'autres manières de légiférer les réseaux sociaux avec les enfants, l'éducation.
Ouais.
Autant dans les écoles, autant qu'avec les enfants, il faut faire comprendre les problématiques liées à ça et que ce soit quelque chose dont on jase chaque semaine dans notre foyer avec des règlements, puis avec malheureusement le fait qu'on va se faire déranger par nos enfants, même s'il y a des écrans dans la maison, puis ça donne envie des fois d'aller les mettre devant.
Oh, en effet, tu as entièrement raison. Puis moi, vraiment, je suis pour que, au contraire, au lieu d'interdire, on travaille en prévention sur l'addiction, mais que les jeunes développent justement leurs skills sur les médias sociaux. Puis je t'explique pourquoi. Moi, en tant que parent, des fois, je me sens démuni parce que ça va trop vite.
Puis ça,
fait qu'il faudra pas qu'eux, quand ils deviennent adultes, ça aille trop vite pour eux, justement pour bien travailler avec leurs enfants.
Puis ça, il devrait exister des outils, Jeff, puis ça a été dit, là, entre autres, par Patrick Mathieu, ça a été dit par Mme Michaud, que je viens de vous faire entendre, pour les parents, et qu'ils soient disponibles et qu'ils soient travaillés, parce que là, le bas blesse.
Ben
on
n'a
presque rien, puis il n'y a rien qui est mis à jour. Et c'est là où l'apport du gouvernement revient en ligne de compte. Donc, ils sont capables de bloquer les médias sociaux puis de leur dire « Vous devez trouver des stratégies pour ne pas être dépendant envers nos enfants, sinon on vous bloque. » Fait que c'est sûr qu'ils vont commencer à développer leur stratégie. Ils veulent pas être, ils veulent pas être bloqués. Versus, on bloque les enfants des réseaux.
Ouais.
Ça ne changera pas grand-chose. Ils vont toujours trouver une façon de le faire. Fait que c'est vraiment éducation et gouvernement.
J'aime cette twist-là. Travaillons sur les adultes pour que ça se passe mieux avec les jeunes plutôt que l'interdire aux jeunes. J'aime beaucoup cette twist-là. Merci, Pascal. C'était très, 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 très intéressant. Vous en pensez quoi? 418-971-101. Êtes-vous dans la gang? On l'interdit ou vous êtes dans la gang? On fait de la pédagogie.
Puis tiens, encore là, c'était juste pour faire rayonner le fait qu'on travaille encore sur quelque chose qui malheureusement n'a pas fonctionné à l'étranger. Alors pourquoi on y met tant d'énergie et
oui,
d'argent?
Oui, exactement. Puis qu'on dépense, c'est ça, tu le dis, l'argent. Qu'on dépense de l'argent. Après ça, on va nous demander de payer ces routes. Puis je fais une petite parenthèse.
Je l'ai vu, oui.
Non, mais je fais une petite parenthèse aussi. Vendredi, on n'a pas parlé de transgenres qui peuvent prendre une décision à 14 ans. Puis là, on voudrait interdire les médias sociaux pour les moins de 16 ans. Je dis ça, puis je dis rien. On va à la pause. Après ça, on va regarder. Est-ce que Mark Carney respecte ses promesses? Est-ce que Mark, qui est arrivé avec des grandes ambitions de dompter Donald Trump avec une série de mesures, est à la hauteur de ce qu'il avait promis? Mathias Turcotte nous fait le topo. Après cette courte pause à Boulevard 102.1. Le retour de Gravel qui suit après nous dès 14h, Marceau le soir à 18h avec Marc Bellemare. Podcast des grands événements avec Denis Gravel. Il s'entretient avec le journaliste Stéphane Cadorette. C'est ce soir, 19h sur nos ondes. Ça sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Et parlant de chaîne YouTube, il y a plein d'autres façons de nous écouter. L'application BLVD 101 qui est gratuite sur App Store, Google Play Store. Et le BLVD.fm qui est notre web radio. Nos meilleurs moments s'y retrouvent également. Vous avez été plusieurs à réagir sur le dossier sur les médias sociaux. Plusieurs qui sont comme nous, Pascal, qui privilégient la pédagogie. C'est la majorité des gens. Et quand j'ai fait la petite parenthèse sur le payage, mais notre ami Alejandro a réagi avec raison en disant hey, « j'ai déjà une taxe sur le gaz, j'ai déjà mes impôts, j'ai déjà mes plaques, mon permis. » Ouah! On m'en donne. Pourrait bien faire avec l'argent que je leur donne. Entièrement d'accord avec...
J'aimerais mieux faire.
Oui, beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Pascal, en campagne électorale, les politiciens nous promettent toujours mer et monde.
Ils font le plus possible pour nous convaincre.
Exactement. Puis là, ben, à chaque campagne électorale, on n'a pas le choix d'embarquer là-dedans parce qu'ils font toutes des promesses. On peut pas même s'en sauver. Puis à un moment donné, on vote pour quelqu'un, puis on met quelqu'un au pouvoir. Puis quand on met quelqu'un au pouvoir comme la CAQ, mais après 8 ans, on se rend compte. Ouais, finalement, leurs promesses, ils ont pas trop tenu, parce que même François Legault avait essayé dans la dernière année de répondre à toutes les promesses qu'il n'avait pas répondu. Et là, ce matin, il y a le Polymètre de l'Université Laval qui a publié son étude sur les promesses de Mark Carney après un an au pouvoir, parce que rappelons-le, il a été élu le 28 avril dernier, donc le 28 avril 2005. Et là, Mathias m'a proposé, il disait, hey, Jeff, qu'est-ce que t'en penserais? Je vais tout analyser ça dans ses fins détails pour voir si Mark Carney respecte ses promesses. Alors, Mathias Turcotte qui est de retour avec nous en studio. Mathias, dis-moi donc, si je regarde ça à l'œil, là.
Oui.
Bon, taxe à l'essence, taxe carbone, c'est aboli, diminution d'impôts, c'est fait. Mais tout ce qui est du secteur économique, on est encore au premier balbutiement. D'après moi, il n'y a pas un fort pourcentage de promesses réalisées, notre Mark Carney. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal Sévit? Es-tu de mon avis?
C'est parce qu'il est arrivé quelque chose hein, de fort important en pleine campagne, comme tu dis. Fait que, peut-être, mais j'ai l'impression quand même qu'on est à 30%.
30%?
En voie de...
Ouais, j'avoue que 30%.
En voie de, ouais,
j'avoue
okay.
que 30%, c'est 3 sur 10. Ouais, je te dirais. Mettons, pour être un peu plus pessimiste, moi, je vais dire 25.
OK, bon, je vous ai décortiqué ça aujourd'hui parce que Polymètre, c'est un outil super intéressant. On a l'impression que les politiciens ne respectent jamais leurs promesses, mais l'Université Laval, en gros, ils prennent toutes les promesses des politiciens puis ils calculent quel pourcentage a été respecté. Par exemple, Justin Trudeau, sous son règne au complet, a réalisé environ 45% de ses promesses complètement réalisées.
Okay.
Donc, c'est quand même plus élevé que ce qu'on s'attend
vraiment?
En regardant de l'extérieur. Pour Mark Carney, par contre, pour l'instant, faut se dire que ça ne se passe pas si bien. Sur 440 promesses au total que l'Université Laval a comptabilisées...
Juste là, 440 promesses, c'est ça, t'es dans le trouble.
Ça fait un an que Mark Carney est au pouvoir. Au total, c'est 6% de ces promesses qui sont complètement réalisées.
Complètement.
Réalisées.
Fait que ça doit être la taxe carbone et ces choses-là qu'on parlait.
Ouais, exactement.
Faut quand même laisser le temps faire
c'est
le
ça.
Temps.
Ouais, oui, ça fait juste un an.
C'est 6% qui sont complètement réalisées. C'est 26% qui sont en cours de réalisation.
Ah,
donc,
fait que vois-tu ton 30% est bon,
ça. On est quand même autour de 32% qui est soit réalisé ou en cours de réalisation. T'as 62% qui se passe absolument rien pour l'instant.
Qui n'était pas une priorité dans le contexte. Non,
ouais, mais c'est
visiblement.
Ça.
Puis t'as un 3% qui a juste été abandonné.
Okay.
Donc ça, pour l'instant, on parle de réduire le déficit, par exemple, qu'on a juste mis dans la partie abandonnée parce que ben, avec les derniers budgets, ça n'a pas été le cas. Les relations avec les Autochtones aussi,
ouais.
Toutes ces promesses, ils ne respectent pas du tout jusqu'à maintenant.
Tu me parles de ça. Est-ce que c'est normal après un an? Puis est-ce que c'est normal dans un contexte où les libéraux étaient minoritaires?
Ouais, ben c'est ça qui est intéressant parce que là, 6%, ça paraît vraiment pas beaucoup. Par contre, il faut prendre en compte qu'un gouvernement minoritaire va toujours prendre plus de temps pour réaliser ses promesses. Par exemple, si je prends deux gouvernements Trudeau différents, le gouvernement Trudeau de 2015 à 2019, où qu'il était majoritaire, 67% de ses promesses ont été réalisées au cours des 4 années.
Okay.
Si je prends maintenant de 2019 à 2021, où il était minoritaire, on passe à 23%.
On se bute vraiment au fait qu'on peut pas réaliser nos promesses. Est-ce que tout simplement normal, Pascal, parce que t'es à un moment donné, tu fais des promesses parce que t'es un parti politique qui a une idéologie, mais les autres n'ont pas la même idéologie que toi. Fait que tu peux pas vraiment penser.
Non. Puis tu sais, moi, je suis quand même pas trop sévère des fois sur des trucs parce que je me dis, hey, c'est dur la politique. Il y a
ben
des
oui.
affaires que tu sais pas quand tu promets des trucs puis t'étais pas au pouvoir.
En effet.
Il y a des choses que t'ignores. Finalement,
il y a des coûts qui augmentent.
Ouais.
Il y a plein de contextes. Tu as entièrement raison.
Et probablement qu'il y a des gens qui voudraient même plus que ce projet-là avance parce que ça serait rendu trop cher
maintenant.
C'est
ça.
Puis. Donc là, ça devrait s'accélérer. Normalement, maintenant que Mark Carney est majoritaire, on devrait voir de plus en plus de ses promesses être remplies. Par contre, là où j'ai creusé un peu plus, c'est par rapport aux priorités de Mark Carney. Le plus grand nombre de promesses ont été faites dans les 3 secteurs suivants pour Mark Carney. L'économie, l'énergie / environnement et des affaires internationales / défense. Ça, c'est ces trois branches prioritaires.
Des créneaux, c'est quand même difficile de faire avancer les choses rapidement.
Oui. Pour l'économie, ça se passe bien jusqu'à maintenant. C'est 14% de ses promesses qui sont remplies. Donc, l'économie, pour
c'est
vrai,
bon.
On regarde, si on analyse, l'économie, pour l'instant, semble vraiment être la priorité de Mark Carney. Là où Bob blesse un peu, c'est affaires internationales. On sait, il a fait beaucoup de campagne sur le conflit avec Donald Trump, avec beaucoup de promesses. Puis sur les promesses en affaires internationales et défense, seulement 2% des promesses qu'il a faites durant la campagne sont réalisées pour le moment.
Mais ça, je gratouillerais ça parce que Donald Trump donne pas de chance non plus.
Non, effectivement. En effet. 23% en cours de réalisation puis 75% en suspens. Donc, on n'a pas réalisé beaucoup de promesses en affaires internationales. En environnement et énergie, c'est une autre de ses priorités. Pour l'instant, on n'a réalisé aucune promesse. Donc, la question se pose, est-ce que Mark Carney, pour l'instant, suit vraiment ses secteurs prioritaires autres que l'économie?
Mais avec le fonds d'aujourd'hui, côté énergie, on est peut-être un peu là-dedans.
Oui, c'est qu'on veut ça, travailler exact. Sur on l'énergie va peut-être travailler.
Bon point.
Mais c'est aussi, comme tu as dit, Pascal, c'est des endroits où c'est long avant de procéder. Affaires internationales, il faut que tu fasses des négociations. C'est long avant d'aboutir. Mais une chose est sûre, maintenant que le gouvernement est majoritaire, normalement, Mark Carney devrait augmenter au-dessus de 6% de ses promesses.
Clairement qu'on va suivre ceci parce que Mark Carney, justement, fait des propositions beaucoup à long terme. Alors, ça va être intéressant. Maintenant que les majoritaires sont vraiment là pour 4 ans, ça va être intéressant à suivre et à voir quel sera son score. Est-ce qu'il va dépasser Justin Trudeau qui avait 62%? Monsieur Carney, on a confiance en vous. C'est déjà tout pour nous. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Merci, guys, d'être à l'écoute de Boulevard 101. On se dit à demain, Pascal.
À demain.
À demain.